Michel Joseph a assuré la mise en onde de ce journal. Kelvin Fab.
Bonjour, Nanit Talani pour vous accompagner tout au long de cette session d'information de ce mercredi 7 août 2024. Au sommaire, après le Mali, c'est au tour du Niger de rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. L'opposition guinéenne envisage des manifestations contre la junte, suivies d'une ville morte. Projet de centrale nucléaire au Burkina Faso, des responsables d'une société russe en visite à Ouagadougou. L'ONU renforce la coopération entre casque bleu et forces régionales en RDC avec un appui technique. Élection à la direction Afrique de l'OMS, le Nigérien Bourema Amasombo présente ses priorités.
Et la région africaine fait face à un quadruple fardeau de morbidité. Nous avons un programme très clair qui permet de réduire cette charge de morbidité.
Ce sera dans notre section magazine et puis ne ratez pas la page dédiée aux Jeux Olympiques dans une dizaine de minutes. Mais tout d'abord, le journal. Le Niger a annoncé à son tour la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, 2 jours après le Mali, reprochant à Kiev un soutien à des groupes terroristes. Ceci après une lourde défaite de l'armée malienne fin juillet lors de combats avec des séparatistes et des djihadistes. Un responsable du renseignement militaire ukrainien, Andriy Yusov, avait sous-entendu que Kiev avait fourni des informations aux rebelles pour qu'ils puissent mener à bien leur attaque. En Guinée, les principaux partis d'opposition et les organisations de la société civile ont appelé lundi à une opération ville morte en début de semaine prochaine à Conakry. Ils veulent protester contre la junte, accusée de vouloir confisquer le pouvoir. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Dans un communiqué diffusé mardi, les Forces vives de Guinée, un collectif regroupant les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile, demande aux citoyens d'observer une ville morte le lundi 12 août de 6h à 18h dans toute la capitale et ses environs. La coalition prévoit également la reprise des manifestations sur l'ensemble du territoire national sans donner de date précise. Elle accuse la junte au pouvoir dirigée par le général Mamadi Doumbouya de vouloir confisquer le pouvoir, mais aussi de violation des droits humains et de restriction de la liberté d'expression. Le collectif exige aussi un retour des civils au pouvoir avant le 31 décembre, date de la fin de la période dite de transition. La junte a déjà fait savoir qu'elle manquerait à l'engagement, initialement pris de céder la place à un régime civil d'ici à fin 2024. Les autorités de Conakry ont par ailleurs interdit toute manifestation.
Au Sénégal, l'organisation regroupant les associations des médias alerte sur la fermeture d'entreprises de presse et la perte de dizaines d'emplois à cause de la pression multiforme des nouvelles autorités. Le point avec Michel Joseph.
Deux quotidiens sportifs, Stade et Sounoulam, ont suspendu leur parution après plus de 20 ans de présence dans l'espace médiatique sénégalais à cause de difficultés économiques. Certaines entreprises de presse sont restées jusqu'à 2 mois sans pouvoir payer leurs employés. D'autres médias pourraient suivre pour les mêmes motifs selon la coordination des associations de la presse. La CAP dénonce une pression multiforme sur les entreprises de presse de la part des nouvelles autorités. Contrôle fiscal, paiement de redevances, résiliation et suspension des paiements par les structures publiques. Le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé fin juin les détournements de fonds auxquels se livreraient certains patrons de presse. Il avait aussi mis en garde les médias qui écrivent ce qu'ils voulaient sur des personnes sans aucune source fiable, des propos que la presse avait jugés menaçants. Reporters sans frontières a exhorté début juin le nouveau pouvoir d'agir en faveur de la liberté de la presse après 3 années d'agressions et d'arrestations de journalistes ou de suspension de médias sous l'ancien régime de Macky Sall.
Une délégation du géant russe du nucléaire Rosatom a entamé hier mardi une visite de 4 jours au Burkina Faso pour évaluer un projet de construction d'une centrale avec le régime militaire à Ouagadougou. Davantage de détails avec Eric Manirakiza.
Le ministre burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières, Yacouba Zabré Gouba, a déclaré que la délégation de Rosatom est venue discuter des aspects techniques nécessaires à la mise en œuvre du projet. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette visite qui va aborder non seulement les questions d'énergie, mais aussi d'autres aspects touchant à la santé, l'enseignement supérieur, l'agriculture et l'environnement, a-t-il indiqué à l'issue d'une séance de travail. Alexander Ronef, ingénieur en chef de Rosatom, a exprimé la volonté de démarrer les travaux le plus rapidement possible, sans toutefois préciser de date. En octobre 2023 à Moscou, le gouvernement burkinabé avait signé un accord avec la Russie pour ce projet. Fin 2020, seulement 22,5% des Burkinabés avaient accès à l'électricité selon la Banque africaine de développement. Le ministre Gouba espère que le projet nucléaire permettra de résoudre durablement le déficit énergétique du pays qui dépend notamment de l'électricité importée de la Côte d'Ivoire et du Ghana.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé hier les casques bleus en République démocratique du Congo à apporter un soutien technique et logistique à la force régionale d'Afrique australe déployée dans le Nord Kivu pour aider l'armée contre des rebelles. La résolution adoptée à l'unanimité autorise la mission de maintien de la paix de l'ONU en RDC, la MONUSCO, à soutenir la force d'Afrique australe via une coordination renforcée, un partage d'informations et une assistance technique. Au moment où les casques bleus ont terminé la première phase de leur retrait de l'est du pays, cette nouvelle coopération inclut un appui à la SAMIDRC pour la protection des civils, l'utilisation des moyens aériens et terrestres de l'ONU pour des évacuations médicales et le transport de troupes africaines hors opérations de combat, ainsi que le partage de renseignements.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Kamala Harris se dit fière d'avoir choisi Tim Walz comme colistier dans la course à la Maison-Blanche. La candidate démocrate s'est tournée vers un gouverneur venu du Midwest pour la seconder dans sa campagne face à Donald Trump. Il est gouverneur, entraîneur, enseignant et vétéran. Ancien militaire de la garde nationale, Walz vient du monde rural, contrairement à la vice-présidente, ce qui pourrait séduire un électorat plus large parmi les indécis. Le chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah a affirmé ce mardi que sa formation et l'Iran sont obligés de riposter à Israël, quelles que soient les conséquences. Il s'agit d'une réponse aux assassinats du chef politique du Hamas et du chef militaire du Hezbollah. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
Hassan Nasrallah a affirmé que le Hezbollah riposterait seul ou dans le cadre d'une réponse unifiée de tout l'axe de la résistance dirigée par Téhéran et qui regroupe ses alliés dans la région. Notre riposte viendra, elle sera forte et efficace, a assuré le chef du Hezbollah, dont le parti revendique quasi quotidiennement des attaques contre Israël, qui riposte en bombardant le sud Liban. Seul ou avec l'axe de la résistance, nous pouvons répondre tous ensemble. En même temps, cela dépend de l'intérêt de l'axe, a ajouté le chef du Hezbollah. Peu avant son discours, l'aviation israélienne a survolé à très basse altitude au-dessus de Beyrouth, provoquant la panique dans la capitale libanaise. Face au risque d'embrasement, la communauté internationale multiplie les tentatives d'apaisement. Nous sommes impliqués dans une diplomatie intense jour et nuit avec un message très simple. Tous les protagonistes doivent éviter l'escalade, a affirmé lundi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken.
Le Hamas a annoncé hier mardi que son chef à Gaza, Yahya Sinwar, l'un des hommes les plus recherchés par Israël, a été désigné à la tête du mouvement après l'assassinat de son prédécesseur qui a relancé les craintes d'une escalade militaire au Moyen-Orient. La nomination de l'architerroriste Yahya Sinwar à la tête du Hamas en remplacement d'Ismaïl Haniyeh est une raison supplémentaire de l'éliminer rapidement et de rayer de la carte cette ignoble organisation, a immédiatement réagi le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, sur X. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a pour sa part estimé qu'il revient à M. Sinwar de décider d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec Israël. C'était tout pour les nouvelles. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Tournons maintenant notre attention vers le journal des JO de Paris 2024. Du Sénégalais et champion d'Afrique Louis-François Mendy à la Marocaine Oumaïma, en passant par la Burkinabé Marc Kouala et le Burkinabé Hugues Fabrice Zongo, ou encore les Nigérianes F. Broum, Ruth Ousoro, Christina Oluti, Ochonogor. Découvrez les moments forts et les espoirs de médailles pour le continent africain. Sans oublier le Nigeria qui doit affronter les États-Unis en quart de finale en basketball. Nous invitons Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des Jeux Olympiques Paris 2024. Aujourd'hui, l'Afrique croise les doigts pour Louis-François Mendy, porte-drapeau sénégalais et actuel champion d'Afrique du 110 mètres haies. Il participe pour la deuxième fois au JO, véritable phénomène des pistes. Il s'est qualifié dimanche haut la main pour les demi-finales de sa discipline. Alisson Fernandez et Al-Bashir Bodian l'ont rencontré pendant sa préparation au Sénégal.
Et Order, vous continuez.
Ici, à Diamniadio, en banlieue de Dakar, s'entraîne l'élite de l'athlétisme africain. Parmi les sportifs, le Sénégalais Louis-François Mendy, en excellente forme cette année. En mars, il a remporté les Jeux africains d'Accra, puis a été sacré 3 mois plus tard champion d'Afrique à Douala. À seulement 25 ans, le hurdleur participe déjà à sa 2e Olympiade, après Tokyo, où il avait été éliminé dès son passage en série.
J'ai beaucoup gagné en expérience et en force, en vitesse et tout. Là, je me dis que je suis prêt, quoi. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est juste la finale.
Originaire du quartier populaire de Yumbel, en banlieue de Dakar, c'est à l'âge de 8 ans que Louis-François Mendy débute l'athlétisme. Et pour se hisser au plus haut niveau, le hurdleur a dû faire de nombreux sacrifices.
C'était quelqu'un qui faisait tout ce que je voulais et tout, qui n'écoutait pas, mais bon. Comme on dit, c'est la discipline en fait, ça éduque. Et du coup, ça m'a bien éduqué. Quoi.
À Paris, Louis-François Mendy nourrit de grands espoirs pour le Sénégal. Le pays ne détient à ce jour qu'une seule médaille olympique, celle d'Amadou Diaba aux Jeux de Séoul en 1988 aux 400 mètres haies. Alisson Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
En taekwondo, chez les moins de 58 kilos hommes, dans les qualifications, le Sénégalais Boka Diop défie le Serbe Lev Kornev. Dans cette même discipline, chez les moins de 49 kilos dames, la Marocaine Oumaïma affronte Anna de Costa da Silva Pinto. L'espoir de médaille burkinabé Hugues Fabrice Zango, champion du monde en titre et recordman de la discipline en salle, concourt pour les qualifications pour la finale en triple saut. En basketball féminin, le défi est immense pour le Nigeria qui fait face aux États-Unis en quart de finale. À suivre aussi ce mercredi, les séries du 5000 mètres hommes qui vont se courir sans l'Ougandais Joshua Cheptegei, sacré champion olympique du 10 000 mètres samedi, qui a annoncé qu'il ne participerait pas aux 5000 mètres dont il est le champion en titre. La Fédération ougandaise d'athlétisme a écrit sur ses réseaux sociaux que Cheptegei et son compatriote Jacob Kiplomo devaient déclarer forfait pour le 5000 mètres, faute d'avoir pu récupérer après l'éprouvant 10 000 mètres. Hier, 4 Africaines se sont qualifiées pour la finale de l'épreuve du saut en longueur chez les dames, prévue ce jeudi. Il s'agit des Nigérianes Essé Broumé, Ruth Ousoro, Prestina Olichi Oshonogor et la Burkinabé Marthe Kouala, dont le directeur technique national se dit confiant pour la suite.
Je pense que c'est une grande satisfaction parce que les qualifs sont toujours les épreuves les plus difficiles à aborder parce que toutes les meilleures du monde sont là. Après demain, à la finale du soir, je crois que les choses peuvent terriblement changer à notre faveur.
Missiri Sawadogo, directeur technique national de la Fédération Burkinabé d'athlétisme. En boxe, l'Algérienne Imane Khelif, qui s'est retrouvée malgré elle au cœur d'une controverse sur le genre pendant les JO de Paris, s'est qualifiée pour la finale du tournoi des moins de 66 kilos, s'assurera au minimum une médaille d'argent. L'Algérienne de 25 ans a battu en demi-finale la Thaïlandaise Jajaem Sunawapeng au point à l'unanimité des juges. Elle affrontera vendredi en finale la Chinoise Yang Liu. En basket masculin, l'Allemagne championne du monde en titre de basket a souffert face à la Grèce de Gianni Antetokounmpo, qu'elle a fini par dominer 76-63 pour atteindre sa première demi-finale olympique. Elle va affronter jeudi la France qui a disposé du Canada. De son côté, la Serbie de Nikola Jokic s'est qualifiée au bout du suspense pour les demi-finales en éliminant l'Australie 95-90. Les Serbes vice-champions du monde en titre vont affronter les États-Unis qui ont pulvérisé le Brésil 122-87. En football féminin, les finalistes sont connus. Il s'agit des États-Unis qui ont battu l'Allemagne 1-0 après prolongation et le Brésil qui a dominé l'Espagne 4-2. Et puis, pas de doublé, 100 mètres, 200 mètres pour Julien Alfred. L'américaine Gabby Thomas l'a privé d'or sur le 200 mètres. Médaillée de bronze olympique du 200 mètres à Tokyo en 2021, Thomas s'est cette fois-ci offert son premier titre international individuel en 21 secondes 83 avec 25 centièmes d'avance sur Alfred. Une autre américaine complète le podium, Brittany Browns, troisième en 22 secondes 20. Voilà, c'est tout pour ce journal des JO de ce mercredi 7 août.
À l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie, restez à l'écoute pour notre segment magazine. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle du 5 novembre, a choisi Tim Walz, gouverneur de l'État du Minnesota, comme colistier et potentiel vice-président en cas de victoire. Tim Walz, 60 ans, est réputé pour avoir pris des mesures considérées comme progressistes depuis son accession en 2019 au poste de gouverneur de cet État du Midwest, région clé pour novembre. Pour une analyse, Jean-Roger Bion a joint à New York l'historien et analyste politique Mohamed Mbouj.
J'avais en fait limité mon choix à Andrew Green et Kelly, le sénateur, parce que ces deux-là représentent ce dont Kamala Harris a besoin. Des voix du Midwest, des voix des vétérans, des voix des hommes blancs, disons. Donc, c'est pourquoi c'est certainement ce choix-là qui s'imposait à elle.
L'opposition au Parti démocrate dit que c'est un dangereux gauchiste. Quelle est la plus-value attendue du nouveau colistier dans le ticket démocrate?
Oui, puisque de plus en plus, beaucoup de gens pensent que Kamala Harris est un peu plus progressiste que Biden. Et donc, on va l'attaquer de ce côté-là. Donc, Walz va être le pendant plus à droite, plus centriste. Mais il est certainement et absolument pas gauchiste. Je crois que c'est parmi la première demi-douzaine de personnes de calibre qui se sont alignées derrière Kamala Harris dès que Biden a retiré sa candidature. Et donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'avoir des choix et de le dire clairement et ouvertement.
Dans la campagne en cours, le plus souvent le reproche fait aux démocrates est la faiblesse de l'économie. Peut-on dire que le choix de Tim Walz va combler ce déficit?
Oui, c'est quelqu'un qui est d'origine rurale, qui a vécu dans deux états clés, ce qu'on peut appeler le ventre de l'Amérique, Nebraska et Minnesota. Et donc, quelqu'un qui a aussi représenté des districts ruraux, donc des districts qui étaient souvent très républicains et qui fondamentalement a su leur parler pour se faire élire et se faire réélire jusqu'à se faire élire gouverner. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il va pouvoir dire à ces gens du Midwest d'une manière générale que l'agriculture va venir se porter, qu'il va avoir un plan pour soutenir l'agriculture et les agriculteurs américains qui sont souvent déployés à se plaindre de tout ce qui se passe dans ce pays en termes économiques, et aussi d'être capable de montrer qu'en réalité, et surtout avec son franc-parler, disons son vocabulaire direct n'est pas très compliqué, d'expliquer aux gens qu'en réalité, ils vivent dans une période économique beaucoup plus favorable qu'ils le pensent, et qui va être capable aussi de faire la comparaison avec sous Trump, parce qu'on a un peu cette impression que sous Trump, tout marchait bien, ce qui n'est absolument pas le cas. L'inflation a commencé sous Trump, les barrières commerciales ont été érigées sous Trump, la compétition perdue par les Américains dans certains domaines stratégiques a été sous Trump. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va soulever tous ces cafards, comme on dit, pour montrer qu'en réalité, on est peut-être dans une meilleure situation que les gens et en particulier les journalistes ne le disent.
C'était Mohamed Mbouj, professeur d'histoire à Manhattanville College à New York. L'armée américaine a fermé lundi sa dernière base au Niger à Agadez, répondant aux exigences du régime militaire. Face au récent coup d'État et à l'instabilité politique croissante en Afrique, Washington devrait-il reconsidérer ses investissements en sécurité et développement pour le continent? Eric Manirakiza, adjoint dans la capitale américaine, Michael Sharkin, politologue à 14N Strategies.
Il faut se demander vraiment s'il y aura un effet sur la capacité des Américains, vu que les Américains, en réalité, ne faisaient pas grand-chose du point de vue de la lutte antiterroriste. Alors, on peut dire que c'était le départ des Français qui a vraiment affaibli la capacité américaine à mener la lutte contre les terroristes, parce que le rôle plus important pour les Américains, c'était de soutenir les Français.
Mais il y avait le volet formation.
Oui, il y avait le volet formation, mais encore une fois, les Nigériens semblent croire que cette formation américaine ne valait pas grand-chose. Qui ne veut pas dire qu'ils avaient raison. Peut-être c'était très utile. Il se peut que c'était utile, mais les Nigériens, pour des raisons, pour des raisons politiques, préfèrent dire que ce n'était pas valable, que ce n'était pas utile. Mais en fin de compte, les problèmes du Niger sont si grands. C'était une petite aide face aux grands problèmes.
Cette base d'Agadez, c'était quand même un investissement important. À la lumière des récents coups d'État et l'instabilité politique croissante dans plusieurs pays africains, pensez-vous que les États-Unis doivent reconsidérer leurs investissements en matière de sécurité et de développement en Afrique?
Oh, tout à fait. Il faut juste se poser des questions. Les investissements, est-ce qu'ils apportent une valeur? C'est quoi le retour pour cet investissement? Est-ce que ça marche? Il faut demander, est-ce que c'est une politique correcte? Il faut tout questionner, tout mettre en question en ce moment. Parce que évidemment la stratégie qu'on a eue jusqu'ici a échoué. C'est un échec. Alors, face à tout échec, il faut prendre un moment pour se poser des questions.
Alors, face à la montée des discours anti-occidentaux et aux sentiments anti-américains au Sahel, quelles approches diplomatiques et sécuritaires des États-Unis peuvent-ils adopter pour renforcer leurs partenariats locaux et améliorer la perception de leur rôle dans la région?
Il faut que les Américains y fassent très attention. Face à cette montée populariste, il y a très peu de choses qu'on peut faire parce que ce sont des sentiments de la rue, ce sont des sentiments populaires, ils sont des idées qui sont promues pour les réseaux sociaux. C'est pas évident comment les États-Unis peuvent contrer ces images, contrer ces idées. Le seul conseil que je peux donner en ce moment au gouvernement américain, c'est de parler aux Africains avec le plus de transparence, le plus d'honnêteté, de parler aux populations.
C'était Michael Sharkin, politologue. Le président américain Joe Biden a rencontré son équipe de sécurité nationale et s'est entretenu avec le roi de Jordanie pour désamorcer les tensions vives au Moyen-Orient après une série d'assassinats très médiatisés. Le leader d'Israël a averti que son pays ferait payer un lourd tribut s'il était attaqué par l'Iran ou ses mandataires dans la région. Un reportage d'Anita Powell de VOA, récit Blanche Sanou.
Les tensions sont vives au Moyen-Orient avec Israël qui est confronté à des menaces de l'Iran et du Hezbollah. Les forces israéliennes tentent d'éliminer le Hamas à Gaza après près de 10 mois de conflit. À Washington, le président Joe Biden tente de calmer les choses après les assassinats de 2 personnalités anti-israéliennes la semaine dernière. La Maison-Blanche a déclaré ce week-end qu'elle s'engageait à parvenir à un accord de libération d'otages et de cesser le feu qui jusqu'à présent est resté improuvable. Washington s'est dit prêt à réagir et à déployer des ressources militaires dans la région. Le porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, s'est exprimé sur Fox News Sunday.
Nous pensons toujours qu'un accord de cessez-le-feu est le meilleur moyen de mettre fin à cette guerre. L'autre chose que nous faisons depuis le 7 octobre est de nous assurer que non seulement Israël a ce dont il a besoin pour se défendre, mais que cette guerre ne s'intensifie pas pour devenir quelque chose de plus large.
Le risque d'embrasement de la région est réel et apparent. Natasha Hall est chercheure au sein du programme Moyen-Orient au Centre d'études stratégiques et internationales.
Je pense que l'une des raisons pour lesquelles cela est aussi effrayant, pour être honnête, pour tout le monde, c'est qu'on ne sait pas très bien ce que les États-Unis peuvent faire quand nous sommes au bord du gouffre comme ça.
Les activistes de la communauté musulmane américaine, qui ont critiqué le soutien ferme de Biden à Israël, affirment que Washington devrait adopter une position ferme sur l'agression israélienne à Gaza. Robert McCaw est directeur du département des affaires gouvernementales au Conseil des relations américano-islamiques.
Les États-Unis disposent d'un large éventail d'outils diplomatiques et politiques pour demander des comptes à Israël, qu'il s'agisse de refuser l'aide, les munitions, les armes, le soutien politique ou de sanctionner davantage les Israéliens d'extrême droite qui se sont livrés à la violence.
Le premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël était déterminé à s'opposer à l'Iran et à ses mandataires sur tous les fronts.
Quiconque assassine nos citoyens, quiconque porte atteinte à notre pays sera tenu responsable. Il payera un prix très lourd.
Le ministre jordanien des Affaires étrangères a récemment effectué une visite rare dans la capitale iranienne Téhéran et Joe Biden s'est entretenu lundi avec le roi Abdallah II de Jordanie au sujet de la désescalade.
Natasha Hall du Centre d'études stratégiques et internationales affirme que la diplomatie américaine avec l'Iran par le biais des médiateurs régionaux comme le Qatar ou la Jordanie pourrait être la meilleure voie à suivre.
Avec près de 40 000 morts, Gaza en ruine, le Liban et l'Iran en état d'alerte maximale, le monde attend de voir ce qui va se passer dans les jours à venir.
Un nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique sera désigné lors de la 74e session du Comité Afrique de l'agence onusienne qui se tiendra du 26 au 30 août 2024 à Brazzaville au Congo. Plusieurs candidats briguent le poste parmi lesquels le Nigérien Bourema Amasombo. Mohamedou Oumfa lui a demandé quelles seront ses priorités pendant les 5 ans de son mandat s'il devenait le nouveau patron de l'OMS pour l'Afrique.
L'Afrique vit un tournant décisif de son histoire en matière de santé. C'est un moment où nous n'avons pas encore terminé avec les maladies non transmissibles. Nous avons un fardeau de plus en plus grand de maladies non transmissibles, des accidents de voie circulation, de traumatismes et de troubles nutritionnels. Et avec le parcours que nous avons au niveau du système de santé de notre pays, nous nous sommes dit, c'est l'occasion pour nous d'apporter ces 30 ans et plus d'expérience pour véritablement améliorer la santé de nos populations.
Est-ce que brièvement, vous pouvez nous présenter quelques points saillants de votre programme?
Mon projet pour la région africaine, c'est une vision d'une région africaine saine, prospère, sûre, où chacun, partout, joue d'une vie saine et productive. J'ai 5 priorités clés. Ma première priorité, c'est vraiment de s'attaquer aux principaux facteurs de charge de morbidité. Et la région africaine fait face à un quadruple fardeau de morbidité. Les maladies non transmissibles, les maladies transmissibles, les traumatismes et vos accidents de voie circulation et les troubles nutritionnels et bien sûr la santé mentale. Nous avons un programme très clair qui permet de réduire cette charge de morbidité. Ma deuxième priorité, c'est il faut améliorer la qualité de vie et promouvoir un mode de vie sain. Ma troisième priorité, c'est l'accès universel des services de santé de qualité. Il faut qu'il y ait une possibilité pour nous, Africains, de faire en sorte que nos systèmes de santé soient aussi performants que possible et qu'ils donnent des soins de santé de qualité. Ma quatrième priorité, c'est de protéger la région contre les menaces. Et je pense que c'est le temps pour nous de faire en sorte que les maladies qui sont à potentiel épidémique soient arrêtées. Ma cinquième priorité, c'est favoriser des partenariats pour des solutions locales. La promotion de solutions africaines aux problèmes africains implique une coopération sud-sud, des efforts de recherche à échelle locale et des interventions efficaces et sensibles à la culture.
Beaucoup de gens se disent que l'OMS est une organisation occidentale qui ne tient pas compte forcément des réalités africaines. Alors comment est-ce que vous feriez pour changer cette perception des choses, notamment en intégrant la médecine traditionnelle africaine?
Je rappelle que dans moins de 3 semaines maintenant, le comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique s'est réuni. C'est nos ministres de la santé. Nos ministres de la santé, c'est des ministres souverains. L'OMS, ce que nous sommes le secrétariat, c'est de faire en sorte que nous ayons et nous appuyons nos gouvernements pour qu'ils comprennent toute la dimension santé dans son amplitude. Et c'est ce que nous ferons si nos ministres de la Santé acceptent de nous donner leur confiance, de faire en sorte que le comité régional soit un vrai comité régional où les décisions prises sont les décisions africaines. Maintenant, pour parler de la médecine traditionnelle, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai eu l'occasion de faire un répertoire, un recensement exhaustif de la pharmacopée au Gabon, où nous avons pu introduire la médecine traditionnelle dans le système de santé du pays. La médecine traditionnelle africaine a vraiment une valeur extraordinaire.
C'était le docteur Bourema Amasombo, candidat au poste de directeur régional du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Et voilà, c'est tout pour Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter ce journal sur voaafrique.com. Mille fois merci à vous, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. Je suis Nanit Talani. Michel Joseph a assuré la mise en onde de ce journal. Kelvin Fowler est